Alors, je vous remercie de vous intéresser à notre thématique qui va lier à la fois l'intelligence collective et l'éco-socio-conception. On va commencer par le début. On vient de faire une démonstration d'intelligence collective, là, l'air de rien, parce que l'ordinateur qui ne fonctionne pas, ça arrive. Je vous propose d'abord de se présenter. Donc, je suis Nathalie Soares. Je suis leader d'activité, facilitation et intelligence collective au sein du groupe ISIA. C'est un groupe qui développe des applications numériques avec une approche numérique responsable. Donc on a deux activités, une première qui est liée au conseil et à la formation, et donc on est vraiment dans l'accompagnement de la transformation numérique responsable des organisations et des entreprises. Et une deuxième partie qui est plutôt liée au développement d'applications éco-conçues de services numériques. Je vais peut-être passer la parole à Yannick.
Bonjour à tous. Donc moi, je suis Yannick Brahi. Donc je travaille à la DSI du groupe Les Mousquetaires. Je ne le présente pas tout de suite, je donnerai deux mots tout à l'heure. Et moi, je suis en charge de la direction stratégie, architecture et transformation.
Alors, je vais peut-être partager avec vous l'intention de cet atelier. L'idée, c'est de partager avec vous en quoi l'intelligence collective est un levier pour vos projets d'éco-socio-conception dans une démarche de numérique responsable. L'idée, c'est de l'illustrer avec l'expérience de la STEAM qui a pu développer cette approche dans un contexte qui est le contexte de la STEAM. Et du coup, on va s'organiser là aussi entre nous sur le partage de cette expérience. Si des questions là aussi émergent au moment de notre présentation, je pense qu'on est suffisamment petit groupe pour pouvoir le partager ensemble. On y va, c'est parti. Alors, il paraît que ça fonctionne. Merveilleux. On va commencer par la définition, finalement, de quoi on parle quand on parle d'intelligence collective, parce que c'est un peu le mot tarte à la crème. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi on l'applique? Et à quel levier, finalement, on a recours avec cette intelligence collective? De quoi parle-t-on? On parle d'un collectif d'individus qui va projeter ensemble un futur désirable. Et tout ça, ça va se faire avec la qualité du lien que ce collectif va savoir tisser. Lien basé sur la confiance et basé aussi sur un but commun. C'est parce que ce lien existe que le groupe peut aller au-delà des attentes. Voilà pour ce qui est de la définition. Alors, pourquoi utiliser l'intelligence collective? Alors, il y a beaucoup de littérature, beaucoup de théories qui vous permettent d'aller explorer ce sujet. Pour certains d'entre vous, peut-être vous y êtes assez familiers. Moi, je vais simplement le poser en trois axes. Le premier axe, il est lié à la complexité. C'est-à-dire, on a recours à ces processus d'intelligence collective quand on a affaire à un monde complexe, avec un niveau d'incertitude élevé. Alors, complexité, pourquoi on parle de complexité? C'est que on vit aujourd'hui une transition, une transformation culturelle qui nous amène de passer à des systèmes compliqués, parfois, à des systèmes complexes. Est-ce que vous faites la différence entre les deux? Si quelqu'un a envie de partager sa définition, je suis preneuse. Qui a envie de se lancer?
Une image que j'aime bien. Compliqué, ça peut être un moteur de voiture, par exemple, et complexe, c'est plutôt une grande place en Inde, pour traverser une grande place en Inde. Et il n'y a pas d'accident, enfin, ça marche bien, mais c'est complexe.
Très bon exemple de complexité. La complexité, finalement, si on devait résumer, c'est une question, un sujet où, en fait, il n'y a pas une seule bonne réponse. Il n'y a pas une solution unique. J'aime bien prendre l'exemple de éduquer un enfant. On n'a pas une seule solution pour approcher ce sujet-là. Résoudre la pauvreté dans le monde. Là, on est vraiment dans le sujet de la complexité. Et aujourd'hui, on navigue dans cette complexité avec un niveau d'incertitude avec lequel on a plus ou moins de confort en tant qu'individu, mais qui va nous demander aussi de lâcher le contrôle sur l'action. D'une certaine façon, c'est aussi se poser la question de quel contrôle j'ai besoin quand je partage un sujet avec des collègues ou un collectif, en l'occurrence l'éco-socio-conception, et est-ce que je suis capable d'accepter le résultat de ce collectif et de le faire mien. Ok ? Donc il y a ce sujet-là, du pourquoi, et puis on a un autre qui est lié à l'innovation dans un moment de transformation. Hein, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, innover ? C'est sortir du cadre, savoir décadrer le sujet, explorer, sans jugement. On est vraiment dans des phénomènes aujourd'hui où la recherche de solutions innovantes, dans le sens premier du terme, est primordiale. Et sur les sujets de l'éco-socio-conception, bah, c'est un vrai sujet de se dire qu'est-ce que la sobriété veut dire dans le domaine du numérique. J'aborderai un troisième point assez rapidement, qui pourrait faire même l'objet, de la conférence. C'est la question du développement des personnes. Hein, souvent, on parle de la notion d'impact environnemental sur des applications numériques éco-conçues. Mais il y a aussi la question des personnes. Hein, le lien avec la planète et le lien aussi avec les personnes. Qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là ? Et l'intelligence collective, c'est aussi un moyen d'apprendre. Et au sein du groupe ISIA, c'est quelque chose qui est très important pour nous, c'est d'être dans une organisation apprenante où on capitalise les apprentissages en permanence. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que dans ma pratique de facilitatrice, par exemple, quand je facilite une instance de gouvernance type CODIR ou COMEX, c'est être capable de dézoomer à un moment donné sur ce qui est en train de se passer et de retirer l'apprentissage collectif pour pouvoir performer la prochaine fois en tenant compte de ce qu'on a appris. Et parfois, ce qu'on apprend est dérangeant. Donc comment j'intègre ce degré d'inconfort aussi ? Hein, donc ça demande une construction du lien hyper puissante. C'est parce que j'ai confiance, c'est parce que je suis en lien avec les autres, c'est parce qu'on a un but commun que je suis capable de montrer ma part de vulnérabilité et de dire à quel moment j'ai appris quelque chose dans mon parcours. Donc il y a vraiment un impact qui est lié au développement de chacun, dans sa compétence, dans sa vision du monde aussi, hein, dans la manière de déconstruire ses représentations. Et puis, il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on en attend finalement de cette intelligence collective ? C'est quoi les bénéfices ? Bénéfices qui sont liés... Pardon, ça a été trop vite. Bénéfices qui sont liés à des résultats supérieurs à ceux qui pouvaient être imaginés. J'espère pour vous, en tout cas pour chacun d'entre vous, là où vous agissez, connaître l'expérience du « waouh ». On était ensemble, on avait un sujet, « waouh, qu'est-ce qu'on a envoyé ?» Et ce résultat-là, il est bien supérieur à ce que j'avais pu imaginer au départ. Premier bénéfice, hyper puissant, et encore une fois, qui vient nourrir la confiance des individus en eux. On a su faire, on saura refaire. Deuxième avantage, deuxième bénéfice, qui est lié au fait à la durabilité en fait, de ces résultats. Pourquoi ? Parce que quand vous invitez toutes les parties prenantes à un sujet donné, quand vous leur demandez de s'engager sur ce sujet-là, qu'ils ont mis à jour les solutions qui sont les bonnes pour ce collectif-là et pour le moment vécu par l'organisation, bah elles sont totalement engagées aussi dans la mise en œuvre. Il n'y a pas de leadership sans followership. Hein, le leader qui initie, qui a une vision et qui pointe du doigt le but à atteindre, s'il n'y a personne pour suivre, il ne se passera rien. Autre bénéfice qui est lié à la qualité des relations, je l'ai évoqué à plusieurs reprises, plus les relations sont solides entre les personnes, plus vous pouvez traverser les turbulences. La complexité, l'incertitude, ça amène de l'inconfort. Donc, plus je fais confiance dans le collectif, plus je suis capable de tenir ce cadre-là dans un moment inconfortable de transformation culturelle. Alors, je passerai assez rapidement là-dessus, mais c'est plus... je dirais un état d'esprit à avoir quand on travaille sur de la transformation. Vous êtes tous impliqués de près ou de loin à de la transformation culturelle par vos responsabilités. C'est comment je vais connoter le changement de façon positive. Et une façon de le connoter, c'est également par les émotions procurées par ce changement. C'est viscéral. Nous, en tant qu'êtres humains, on est câblés pour résister à ce changement puisque ça casse un équilibre. Donc comment je peux retrouver mon équilibre dans ce déséquilibre ? Comment je peux y trouver du plaisir, de l'amusement, de la joie, de la fierté ? Je ne pensais pas que j'étais capable de le faire, je l'ai fait. Ok ? Et ces émotions-là, ce n'est pas juste pour se faire des bisous hein, et se dire que c'est super, c'est simplement se dire quand j'ancre une expérience du changement de façon positive, je permets au collectif de mettre en œuvre ce qu'elle aura décidé et de tenir ce cap-là. Ça facilite l'engagement. Hein, ça facilite l'envie, hein, de susciter l'envie. Je terminerai là-dessus, avant de passer la parole à Yannick, sur la manière dont la STEAM s'est saisie de ce sujet. Avant d'y aller, c'est en tout cas un conseil pour le coup que je vous donne, c'est quand vous avez des sujets engageants, où vous avez besoin d'adhésion du collectif, c'est de vous poser cette question-là de c'est quoi mon intention quand je sollicite les personnes ? Qu'est-ce que je viens chercher ? Et je vous le dis tout de suite, si vous connaissez la réponse à cette question, c'est peut-être pas l'intelligence collective qu'il vous faut. C'est-à-dire que si vous avez déjà une idée du résultat avant d'y aller, pas la peine d'aller solliciter un collectif. Il faut être prêt à s'ouvrir sur un résultat qui sera peut-être pas celui que j'avais imaginé au départ, qui sera même peut-être supérieur à celui que j'avais imaginé au départ. Qualité de l'intention, que devons-nous accomplir ensemble ? Qualité des personnes, quelles sont les parties prenantes du système ? Qui je vais associer à cette intention ? On a l'habitude de dire, entre praticiens d'intelligence collective, que les personnes qui sont ici, par exemple, sont les bonnes personnes. Les personnes qui se sont inscrites à cet atelier, qui ont voulu s'associer à cette exploration, sont les bonnes personnes. C'est cette démarche-là qui est intéressante de porter dans vos organisations. Hein, puisque parfois, je dis bien parfois, l'esprit français fait que on n'a jamais la bonne personne, c'était pas le bon contexte, pas le bon moment, on n'avait pas les moyens, on n'avait pas les ressources. En attendant, les personnes qui sont là sont les bonnes personnes et c'est avec elles que vous allez construire. Et il y a la question des processus, mais j'ai presque envie de dire, les processus, quand on parle de processus, on parle de méthodologie, c'est peut-être le dernier sujet à voir, qui est de se dire quelle est la méthode de travail que je vais proposer et qui va convenir par rapport à l'intention que j'ai designée avant. Intention établie au plus haut niveau, Yannick nous en dira un mot juste après. Je fais le lien maintenant avec l'éco-conception. Donc l'intelligence collective, en quoi c'est un levier avec l'éco-conception ? Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes familiers de l'éco-conception par rapport aux produits, à un cycle de vie de produits, où on va s'attacher à chaque étape du cycle de vie de produit, de réfléchir à l'impact environnemental et plus largement sociétal. Vous le savez, peut-être mieux que moi, quand on est sur ces aspects-là d'éco-conception, on va faire des compromis. Compromis entre l'impact environnemental et sociétal et la nécessité de produire. J'ai envie de dire, pour le numérique responsable, éco-conçu, pour le groupe ISIA, ce qui va compter ici, c'est la question d'accompagner pleinement les entreprises, les organisations qui ont le courage d'aller explorer ce sujet du numérique responsable, non seulement dans une idée de réduire cette empreinte sociale, sociétale, environnementale, des solutions numériques, mais aussi cette idée de changement de pratique dans la manière de travailler. L'éco-conception, ça vient intimement toucher la pratique des développeurs, des chefs de projet, des équipes, chefs de projet, experts de la complication, j'ai envie de dire. Comment on l'amène à aller explorer de la complexité ? Quelqu'un qui est dans la gestion de projet, il découpe le problème en plusieurs tranches pour pouvoir le réduire et l'analyser et le résoudre. Là, on va l'amener à complètement changer de mindset et aller explorer ses méthodes de travail et ses pratiques de travail. Et là, on n'est plus sur un sujet qui est le sujet simplement du numérique. On est sur le sujet de quel rapport j'entretiens avec ma pratique au travail. Bien sûr, notre marque de fabrique chez ISIA, c'est le fait de pouvoir faire tout ça. Alors nous, en interne, on le fait bien sûr en recourant à l'intelligence collective. On a l'occasion régulièrement d'aller explorer ces processus avec l'ensemble des collaborateurs. La dernière fois, on l'a fait au mois de juin avec l'ensemble des collaborateurs pour explorer un sujet qui nous tient en cœur, qui est l'entreprise à mission. Donc on a co-construit ce qui est pour nous l'avenir du groupe Isia. Mais pour autant, voilà, sur les accompagnements avec lesquels on part à l'aventure, j'ai envie de dire, on est aussi sur cette idée-là de promouvoir l'intelligence collective pour intégrer le maximum de parties prenantes à l'histoire. Hein, comment je fais pour embarquer ? Du coup, je vais pouvoir passer la parole à l'expérience, au témoignage de Yannick sur ces sujets-là, et par rapport à un contexte qui est le sien, à la STEAM, et je vous laisse la parole.
Merci Nathalie pour cette démarche inspirante et qui est particulièrement efficace, notamment dans tous ces contextes environnementaux. Je vais donner un ensemble d'éléments. L'idée, c'est que ce soit interactif. Donc à tout moment, si vous avez besoin de m'interrompre, vous levez la main, vous m'interpellez, et on adaptera la présentation pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Avant de démarrer, je vais juste donner deux mots sur le groupement, en quelques chiffres, le groupement Les Mousquetaires, pour qu'on comprenne bien l'enjeu qu'on peut avoir, nous, globalement, au niveau du RSE. Et après, on fera un zoom plus précisément sur la partie numérique. Le groupement, c'est... sous Intermarché, mais c'est beaucoup d'enseignes. On va parler de Netto, Bricomarché, Bricorama. On est dans le monde de l'automobile avec Rodi ou Rapid Pare-Brise. Mais c'est également des usines de production, plus de 60. Et une usine de production, ça consomme du carbone. Ça émet du carbone, je veux dire. Beaucoup de bases logistiques. Là aussi, quand on a des bases et on a des frigos à moins 30, où on stocke énormément de choses, ça consomme. 2300 camions. C'est les nôtres, donc on a des leviers pour voir comment on optimise. Mais là aussi, on a un impact carbone qui est non neutre. Et donc, des leviers d'évolution et de réduction qui sont également importants. Alors le groupement s'est attaqué depuis plusieurs années au sujet RSE, avec un certain nombre de grands chantiers qui ont été menés. Alors je vais donner juste les quelques grands axes qu'on traite et quelques exemples. L'idée, c'est pas de faire le tour de tout ce qu'on fait, le groupement étant assez large, donc il y en aurait pour longtemps. Dans les thématiques qu'on traite, on a tout ce qui est économie circulaire, comment on recycle, comment on arrête de reconsommer à chaque fois qu'on a besoin d'un produit, de reproduire, d'aller rechercher de la matière, tout ce qui est transition énergétique, il y a tout ce qui est également évolution des modes de travail et comment on met les collaborateurs au centre de tout ce qu'on peut faire et comment on leur facilite la vie, transition agricole qui est un levier extrêmement important dans tout ce qu'on fait avec la proximité avec ce monde-là, tout ce qui est décarbonation et également on essaie de plus en plus de labelliser nos points de vente autour de cette éco-responsabilité. Alors, quelques exemples sur l'économie circulaire. De plus en plus, on essaie d'injecter des produits recyclés, du plastique recyclé dans les eaux Aix-les-Bains. On a fait tout un effort pour remplacer dans le monde de la marine, donc tout ce qui est poisson, les caisses de polystyrène. Parce qu'une polystyrène, on prend, une fois qu'elle est utilisée, on la jette. Donc, on a investi dans des caisses en plastique réutilisables. Alors, financièrement, ça nous coûte. Ça coûte plus cher, ça coûte plus de manutention. Dans les chaînes de production, ça crée des difficultés. Ça ne s'emboîte pas toujours très bien, mais on ne lâche pas. On travaille avec le fournisseur pour peaufiner le dispositif, mais on ne va pas lâcher. On sait que c'est important et on continue d'en changer. Donc là, 1,2 million de caisses, c'est significatif. Et on continue cette démarche. Proximité monde agricole, c'est avoir une agriculture responsable, et pour qu'elle soit responsable, il faut aussi que les agriculteurs soient bien rémunérés. Donc vous pouvez le voir, on a des prix minimum où on rémunère les agriculteurs. Eux, ils vivent bien, et quand ils vivent bien, ils peuvent investir dans une agriculture qui est plus responsable. Alors après, les camions, ça reste compliqué. De plus en plus, ils sont équipés en GPL. Camions électriques, ça reste un peu compliqué. On labellise, comme je disais, nos points de vente. C'est eux, parce que c'est un groupement d'indépendants, donc c'est eux qui se labellisent eux-mêmes, donc plus de 250 à date. Et enfin, un des derniers axes qui se greffe à cette stratégie RSE, c'est le numérique. Donc un programme qu'on a appelé PING, le numérique dans le groupement des mousquetaires et qu'on va un petit peu détailler et on va un petit peu voir comment on s'y est pris pour développer cette démarche de RNE. Merci. Cette démarche, on l'a fait naître et démarrer il y a un peu plus d'un an maintenant. Le CODIR de la DSI, donc la DSI, c'est une filiale qui s'appelle la STEAM, donc, a décidé de prendre ce chantier à bras-le-corps. Et pour savoir comment on allait porter ce programme, la première chose qu'on a fait, on a fait des ateliers d'intelligence collective pour réfléchir à comment on allait le structurer, comment on allait l'incarner, comment on allait embarquer l'ensemble de nos collaborateurs dans cette démarche. Donc ces travaux d'intelligence collective ont donné lieu à un programme en trois grands axes. Premier axe, axe environnement. Donc derrière ça, on va chercher tout ce qui va être comment on optimise la consommation énergétique de nos data centers, comment on fait vivre plus longtemps notre matériel, comment on va faire de la réutilisation de matériel, comment on va faire de la seconde main, comment on va mettre des panneaux solaires sur le data center pour avoir un mix énergétique et encore moins carboné. Donc là, on va adresser toutes ces thématiques-là. Deuxième axe, axe data. Donc là, on va chercher à réduire notre donnée. On a fait quelques calculs, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais au moment où on est passé dans le confinement et la maximisation d'utilisation des outils collaboratifs, la croissance de la quantité de données stockées est juste exponentielle. Sauf que la donnée qu'on stocke, elle a un coût carbone. Elle a un coût carbone important. Hein, et si on reprend globalement le numérique, c'est 4% à peu près des émissions mondiales de carbone. Et le traitement de la donnée est un axe important. Donc il y a cette donnée-là, il y a les données dans les bases de données, il y a les données qu'on met dans nos data lakes parce qu'on a besoin d'IA, on a besoin de machine learning, on a besoin de faire des algorithmes hautement consommateurs de données et d'ailleurs hautement consommateurs de CPU. Donc comment on peut agir sur cet axe-là pour réduire un petit peu notre empreinte carbone. Et enfin, et non des moindres, l'axe humain, parce que ce type de programme, on a besoin d'embarquer tout le monde, on a besoin d'embarquer tous les collaborateurs. Ce sont des programmes de transformation qui font du sens, qui sont porteurs, et on a mis les collaborateurs au centre. Avec deux choses. La première, c'est de les sensibiliser à ce que c'est que le RNE, au niveau de l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement, sur le carbone du numérique. Et pour ça, on va avoir des chantiers autour de la fresque du numérique. On parlait tout à l'heure de fresque du climat. Là, nous, on a fait un focus sur la fresque du numérique. Et comment on les forme. Comment on les forme, on le verra juste après, à l'éco-conception, à l'éco-socio-conception. Et comment on les forme. Et pour les former, il faut avoir un cadre d'éco-conception. Donc, il faut avoir les règles, les bonnes pratiques de l'entreprise. Donc, ces trois axes, incarnés par le CODIR, parce que chaque membre du CODIR, c'est un binôme CODIR pour chacun de ces trois axes. On se réunit régulièrement et on a mis ce programme PING comme un des cinq piliers de notre plan stratégique. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a mis au plus haut niveau possible de ce qu'on pouvait faire au niveau de la DSI du groupement. Alors on a une ambition, c'est que l'ensemble de nos projets informatiques pour l'ensemble du groupe soient tous éco-conçus. Alors, on verra pour la date, si c'est fin 2025, fin 2026. On n'a pas là-dessus, on n'a pas l'ambition de date, mais en tout cas, on se met en ordre de marche pour que ce soit le cas. Pour les éco-socio-concevoir, donc, comme je disais, on a dû construire notre propre cadre d'éco-conception, nos règles, nos bonnes pratiques propres au contexte du groupement. Cette construction du cadre, on l'a fait en session d'intelligence collective. Alors, plusieurs raisons qui nous ont conduits à utiliser cette démarche. La première, c'est que, on en parlait tout à l'heure, le groupement, c'est un environnement extrêmement complexe, structuré en de nombreuses filiales, c'est dans multi-pays, multi-territorial, multi-activité, multi-enseigne. Donc, il faut s'organiser dans cet environnement complexe. Le deuxième point, c'est que dans la démarche, on voulait embarquer absolument l'ensemble des métiers de la DSI. Le troisième point, on voulait absolument mettre les collaborateurs au centre de cette démarche pour qu'ils se l'approprient, que ce soit eux qui la définissent, que ce soit eux qui la portent et que ce soit eux qui en soient les ambassadeurs au le plus large, à la fois dans la DSI, mais également dans le reste du groupement. Donc, cette démarche d'intelligence collective, ça nous a permis de faire ça. Et puis, par ailleurs, cette approche étant porteuse, les collaborateurs sont arrivés avec plein d'idées qu'ils avaient déjà, dont ils n'avaient pas eu le moment, l'opportunité, le cadre pour s'exprimer. Et quand ils se sont dit, ça y est, on peut le faire, mais moi, j'ai plein d'idées. Et bien, toutes ces idées, on les a prises. Et donc ça, c'était vraiment top. Et ces ateliers ont été riches et fructueux. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on peut dire que cette démarche est là en place, à la DSI. On a un cadre d'éco-conception qu'on a construit. Alors, on n'a pas réinventé complètement la poudre non plus, hein. Il y a un ensemble de référentiels qui existent sur le marché, qui ont été pensés par des personnes brillantes. Nous, on a été faire du picking dans ces référentiels pour dire qu'est-ce qui nous convient le mieux. Et on a d'autant plus mieux choisir, parce que dans les ateliers d'intelligence collective qu'on a menés, on a pu réfléchir aussi ensemble à qu'est-ce qu'on voulait faire, comment on allait le faire au mieux, quelle était l'ambition qu'on avait, quels étaient nos objectifs. Et ça, ça nous a permis de cibler ce qu'on allait faire. Voilà. Donc ce travail-là, maintenant, il est prêt. Et on arrive à une phase où on va se confronter à la réalité des projets qu'on doit mener. Donc on lance des projets pilotes. Et là, c'est intéressant parce que quand on rentre dans les projets, dans les pilotes, entre guillemets, on passe de l'intention, à on veut le faire, à on le fait. Et là, j'en parlerai juste après, on voit que de temps en temps, il y a autant, tant qu'on est en train de se dire on va faire un peu un rêve, on va y aller, on va s'y confronter. À partir du moment où il y a des impacts ou des potentiels renoncements à avoir, parce que du coup, cette démarche, c'est aussi d'autres façons de faire, on commence à percevoir parfois quelques résistances qu'on va évoquer. Donc ces résistances, en fait, c'est tout un tas de verrous qu'on doit essayer d'ouvrir. Donc, comme je disais, la démarche est en place au niveau de la DSI et principalement au niveau de la DSI. Et d'ailleurs, c'était un parti pris qu'on avait eu hein, quand on a commencé. Le champ des possibles est tellement large qu'on s'est dit, commençons à faire ce que nous, on sait déjà faire à d'autres niveaux. Et après, on verra comment élargir. Des actions concrètes déjà en place. Donc, on a fait beaucoup de choses. Je vais donner quelques exemples. On mesure tout à fait précisément la consommation électrique de nos data centers. On a étendu la durée de vie de l'ensemble de nos devices, des PC, des téléphones portables de l'entreprise. Quand on sait que la plus grosse empreinte carbone d'un téléphone, ce n'est pas son utilisation, mais c'est sa fabrication, plus on fait vivre longtemps un PC, un téléphone, plus on optimise l'empreinte carbone. On a commencé à acheter et à vendre du reconditionné. Et je vais donner un exemple. Dans nos points de vente, ils sont tous équipés de smartphones un peu durcis qui leur permettent de flasher, de faire des inventaires, de faire des commandes. Le jour où on a ouvert à nos points de vente une offre de smartphones reconditionnés, on en a vendu 600 en deux jours. Donc ça témoigne aussi que progressivement, il y a une appétence aussi à cette forme de frugalité, à la fois à faire durer le matériel et puis derrière aussi une dimension frugalité parce que c'est un désavantage, ça coûte moins cher. On a fait, je parlais tout à l'heure de l'axe data, on a fait ce qu'on a appelé des clean-up days. Les clean-up days, quand on les a mis en place, donc on a réussi sur la période d'une semaine, c'était 10 000 collaborateurs dans le groupement qui ont été impliqués. Alors de mémoire, je crois qu'on a diminué l'espace de stockage de 2 Tera et on a fait supprimer dans la semaine, 5 millions de mails. Donc, certes, dans l'ensemble, c'est encore qu'un bout de chemin, mais le bout de chemin est là. C'est-à-dire que la prise de conscience était là. Ça veut dire qu'à partir du moment où on communique sur ce sujet, il y a une vraie réceptivité. Et le fait de communiquer, de partager ça, contribue à transformer culturellement l'entreprise. Les collaborateurs, on les sensibilise. Donc, on fait des fresques du climat. Donc, on a déjà formé 10% de nos collaborateurs. On a un objectif d'être à 35% d'avoir des personnes qui ont fait la fresque du numérique, pardon, pas du climat, du numérique d'ici fin d'année, et d'avoir fait 70% d'ici la fin de l'année prochaine, en s'appuyant à la fois sur des fresqueurs pro et des fresqueurs qu'on fait monter en interne et qui s'approprient la démarche. Maintenant, notre ambition, c'est de passer à l'échelle du groupe. Et comme je le disais, au-delà de la DSI, qui est vraiment embarquée, il faut aller chercher nos métiers, faut les convaincre. On a des approches, on a des pilotes, mais on a encore quelques difficultés à régler. Alors, je vais donner quelques exemples de ce qu'on peut rencontrer. Moi, j'ai appelé ça la réconciliation des contraires. Tout à l'heure, je parlais de data. On est dans un univers où on a, avec l'intelligence artificielle, un besoin croissant, exponentiel de données. Toujours plus de données, toujours plus détaillées, avec des historiques toujours plus longs. Et on stocke de la donnée, et des fois, on la stocke en disant, on n'a pas forcément l'usage tout de suite, mais demain, on peut en avoir besoin pour entraîner un algorithme. Et à côté de ça, une démarche RNE qui dit, plus de frugalité sur la donnée, parce que la frugalité sur la donnée, c'est aussi une empreinte carbone plus faible. Et donc là, on a deux contraires qui s'opposent. Un autre cas qu'on peut rencontrer, quand on commence à introduire la partie éco-socio-conception dans les projets qu'on mène, on sent un peu des fois une forme de résistance parce que, ah oui, mais le time to market, est-ce que nous, on doit aller vite, hein? En plus, la grande distrie, si vous avez vu la presse, on est dans une période de consolidation, de concurrence, de guerre des prix, donc il y a quelques priorités un peu importantes dans le groupe. Et pour autant, il ne faut pas lâcher. Et du coup, c'est peut-être pas sur ce projet-là, peut-être pas le temps, peut-être des sujets plus stratégiques à un moment donné pour l'entreprise. En fait, c'est contraire. Nous, on a la conviction qu'ils sont réconciliables. C'est une question d'approche et de façon de voir. Quand on dit finalement plus de data, oui, on a besoin de beaucoup de données. Mais peut-être on a besoin de mieux de data. Peut-être moins de data, mais bien ciblé, en meilleure qualité. La qualité de la donnée, c'est aussi ce qui permet d'avoir des meilleurs algorithmes. Concentrons-nous sur ce qui va rapporter, et surtout moins de data, c'est aussi moins de coûts, parce que cette donnée qu'on stocke dans des volumes, c'est des teras, même c'est plusieurs pétaoctets, dans le data, c'est plusieurs pétaoctets, ça coûte un bras même. Et quand on renégocie nos contrats avec nos grands fournisseurs de cloud, on tout saute un peu. Donc il y a un moyen, il y a un chemin, un compromis à avoir entre, oui bien sûr on a besoin de data, oui bien sûr on a besoin d'IA, mais pour autant, concentrons-nous sur là où il y a le plus de valeur, sur la donnée la plus essentielle, sur celle qui est en meilleure qualité, et je suis sûr qu'on aura des très bons algorithmes, et pour autant, on n'aura pas mis de péta et des péta de données, là on aurait pu avoir besoin de moins. Et si on prend l'autre exemple sur l'accélération du time to market et l'éco-conception, derrière l'éco-conception, il y a un vrai enjeu quand même de frugalité. Quand on fait un projet, un grand projet informatique, la démarche d'éco-conception, un peu en lien avec l'agilité, va nous amener à nous concentrer sur l'essentiel, les fonctionnalités les plus importantes pour le métier. Vous savez que sur la règle des 80-20, et 80% des fonctionnalités qu'on développe sont presque jamais utilisées. À un moment donné, on peut se dire aussi, on peut prendre un peu de temps pour bien penser une solution plus frugale, plus éco-responsable, moins coûteuse. Ouais, peut-être qu'à un moment donné, il va prendre un peu plus de temps, et encore, c'est pas gagné. Enfin, c'est pas sûr. Je pense qu'une fois qu'on est mature, pas forcément. Mais derrière, peut-être un projet plus simple qu'on fera plus vite pour moins cher. Et que peut-être que les 1 ou 2 mois qu'on aura perdu à prendre le temps de simplifier, de se concentrer sur l'essentiel, vont nous permettre d'aller derrière demain plus vite. Et en fait, quand on commence à avoir cette communication positive, de dire que c'est pas quelque chose qui s'oppose, mais c'est bien une démarche qui va dans le sens de faire plus vite, mieux pour moins cher. Là, il y a une réceptivité, et plus vite, mieux pour moins cher. Ça va très bien avec la stratégie du groupe, où il faut avoir les prix pour les consommateurs les plus bas possibles. Donc, et aujourd'hui, ce qu'il nous reste à faire, ce qu'on doit continuer à faire, c'est de communiquer auprès de l'ensemble des collaborateurs de la STIM et des métiers sur les intérêts de cette démarche, de les embarquer, d'aller chercher dans nos métiers des co-leaders de cette démarche pour qu'ils soient dans leur bureau, dans leur COMEX, à côté de nous pour sponsoriser cette démarche. Donc, on a franchi un premier palier au sein de la DSI, on a un deuxième palier qu'on doit franchir maintenant pour élargir cette démarche plus globalement dans le groupe. Donc, voilà ce que je voulais vous parler. Et peut-être à retenir 5 mots-clés, ou 5 idées, ou 5-6 idées sur cette démarche. La première, c'est dans ce type d'approche, un des premiers sujets, c'est de faire prendre conscience à l'ensemble des collaborateurs du groupe l'impact du numérique sur le climat, sur les empreintes carbone, sur tous ces aspects-là. Le deuxième, c'est de considérer que ça va être un changement culturel. On va penser autrement la transformation. On va la penser plus frugale, mais également aussi plus agile, Les entreprises doivent être résilientes. Elles sont résilientes, non pas parce que, oui, parce qu'elles sont performantes, mais aussi et beaucoup parce qu'elles sont agiles et robustes. Il faut travailler cette agilité-là. Et quand on est plus frugal, on est souvent plus light, plus lean, plus agile. Le troisième volet, il faut être un peu courageux, un peu tenace, parce qu'on n'embarque pas tout le monde à la même vitesse. Il y a des personnes qui ont cette sensibilité, qui vont venir sponsoriser. Puis il y a des personnes qui sont sensibles, mais ils ne vont pas mettre ça en priorité. Puis effectivement, pour avoir des climato-sceptiques ou des personnes qui sont en frein, il faut adresser tout le monde, il faut y aller, il faut s'exprimer, il faut pousser cette démarche. Il ne faut pas lâcher. Il faut qu'elle soit incarnée. Alors le CODIR l'a bien incarné au niveau de la DSI, il faut aller l'incarner globalement au niveau du groupe. On a des relais, on a un directeur au niveau du groupement, un directeur de la qualité du RSE qui porte un peu l'ensemble des chantiers que j'avais présentés au début. Il faut aller chercher à l'incarner cette démarche un peu partout dans les entités du groupe. Et enfin, petit dernier message, l'optimisme, parce que même si des fois on peut rencontrer quelques difficultés, on le voit bien avec ce slide-là dans la réconciliation des contraires, qu'on a vraiment une capacité à convaincre et à faire changer les personnes. Et un des exemples qu'on peut voir à quel point ça transforme, notre branche bricolage, avec les anciennes Bricomarché, Bricorama, Bricocash, ont mis le RSE au cœur de leur stratégie et ont choisi de se faire incarner, c'est pour ça que je parlais d'incarnation, par Nicolas Vanier, que tout le monde connaît, qui va être entre guillemets la figure de proue pour le bricolage de notre transformation RSE. Donc ce côté incarnation est là. Donc, il y a un alignement de planète. Les actualités de l'été font que la prise de conscience, elle est vraiment là. Maintenant, chacun à notre niveau, avançons sur cette thématique. Au niveau du groupe, au niveau des filiales, au niveau de chacun, parce que chacun à notre niveau, on est au libre et autonome pour dire j'efface mes mails, je ne stocke pas toutes les données, je prends moins de photos, je fais un peu de ménage. Enfin, tous ces aspects-là, les gestes au quotidien, on peut tous les faire. Et je ne sais pas si vous, quand vous prenez une photo avec votre téléphone, vous avez déjà dit, tiens, est-ce que ça vaut le coup que je la prenne ou que je la garde ? Donc vraiment, une démarche qui embarque absolument tout le monde.
Merci Yannick. Il nous reste quelques minutes pour savoir un petit peu comment ça résonne pour vous, ce sujet. Peut-être qu'est-ce que ça vous inspire, là où vous agissez, encore une fois. Peut-être aussi des expériences à partager ou des questions, tout simplement. Qui a envie de prendre la parole ?
Bonjour, bonsoir. Merci pour votre exposé. Concernant le numérique responsable, est-ce que vous avez pu mesurer l'impact de vos activités numériques, et est-ce qu'avec les process que vous nous avez expliqués, est-ce que vous avez déjà pu faire une réduction de ces émissions? Si oui, combien? Et puis, quel genre de cible est-ce que vous vous êtes donné prochainement? Merci.
Alors, merci pour la question. La mesure, c'est important. Donc, on mesure, oui. Alors, est-ce qu'on mesure tout? Non, parce que c'est compliqué de tout mesurer. Ce qu'on mesure aujourd'hui très bien, c'est ce qu'on consomme, l'électricité consommée dans nos data centers, entre à la fois la partie refroidissement clim et ce qu'on consomme sur l'ensemble des serveurs, et on va au grain du serveur, ce qui nous permet de mesurer d'ailleurs ce qu'on appelle l'UE, l'efficience de notre serveur, et ce qui nous donne les leviers d'optimisation et de réduction, parce qu'à partir du moment où on sait précisément les parties ou les serveurs qui consomment, on est capable de réduire. Alors après, les chiffres de réduction, on les connaît? Je demande à mon... J'ai l'ami du public.
Sur un de nos deux data centers, l'année dernière, on avait un bilan carbone de 270 tonnes de CO2 et cette année, on est descendu à 214.
En consommation d'énergie ou est-ce que vous pouvez...
Non, en total.
L'impact de fabrication du serveur également.
Oui, total, matériel.
On mesure bien l'ensemble. Oui, parce que surtout que la fabrication est beaucoup. Après, on ne mesure pas. Non, merci. Dans les applications, il y en a qui sont hébergées dans le cloud. Les fournisseurs de cloud sont assez réticents à nous donner les vrais chiffres. Et quand ils donnent des chiffres, et ça embarque, eux, des compensations qu'ils font. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le vrai chiffre brut de ce qu'on a consommé pour avoir notre vrai impact à nous. Si eux, ils plantent des arbres, ce que ça veut dire pour dire ce qu'on pense, c'est pas... Voilà. Et en plus, pour un même service, ils vont nous mettre un même impact carbone que data center soit hébergé en France ou en Allemagne, sauf qu'en Allemagne c'est du charbon alors qu'en France c'est du nucléaire, donc ça ne peut pas être le même chiffre. Donc là-dessus, on a toute une partie où on a du mal à avoir des chiffres. Donc, par contre, on les tanne. Et puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est plutôt un appel au collectif, qu'on fasse tous pression sur ces fournisseurs de cloud pour avoir des vrais chiffres. Parce que sinon, on aura du mal à mesurer et faire diminuer.
Merci pour l'exposé. On a adressé le plan environnemental avec le CO2. Je m'intéresse au côté économique, si jamais c'est mesurable avec la démarche d'éco-conception, savoir ce que ça a apporté. Et surtout, pour le collaborateur, pour l'acteur qui intervient, qu'est-ce qu'il en retire de plus pour son travail au quotidien, quel est le bénéfice, et puis pour rallier le côté intelligence collective, en quoi l'intelligence collective a pu aussi accentuer ces bénéfices.
Merci pour la question. Sur les coûts, il y a des gains. Alors après, bien sûr qu'on soit tout à fait les chiffrés, mais quand on dit un PC, avant de changer tous les 3-4 ans, on passe à 6 ans, il y a des gains. C'est clair et net. Donc voilà, donc c'est un exemple, il y en a d'autres. Sur la deuxième question, alors j'ai oublié sur la deuxième question, je fais la troisième, après je vous redemande la deuxième. Sur en quoi l'intelligence collective a permis d'embarquer les collaborateurs. Ça a été super important parce qu'on a fait le choix, quand on a fait les sessions d'intelligence collective, de reprendre des collaborateurs de l'ensemble des directions. Donc, et puis par ailleurs, des collaborateurs qui étaient envie d'être engagés. Le fait de les embarquer, eux, ils vont, leur niveau d'implication, qui était déjà important au départ parce qu'ils ont été volontaires, hein, on ne les a pas nommés, c'était des appels à candidature, va grandir et ils vont, eux, devenir des ambassadeurs de la démarche. Au quotidien dans leur centre de direction. Donc comme ça, on diffuse et on irrigue l'ensemble de l'entreprise. Par ailleurs, on fait des restitutions régulières, on fait des communautés avec tous les managers, on donne l'information avec tous les collaborateurs, on fait des lives. Donc il y a toute une démarche de communication autour. Et après, la question, c'est en quoi ça les engage ou comment ils le perçoivent. Aujourd'hui, je dirais même, si on ne fait pas ça, ils viendront plus ou resteront pas. Quand on fait des entretiens, quand on recrute des personnes, une des questions, ils vont nous challenger. Qu'est-ce que vous faites sur le RSE? Qu'est-ce que vous faites sur les RNE? C'est quoi l'éthique de l'entreprise? C'est quoi l'esprit? Moi, je recrute pour l'IT et je suis même challengé sur le modèle de la grande distrie, est-ce que c'est bien éthique? Et puis, voilà, vous avez des abattoirs, de maltraitance animale. Ça va assez loin dans l'intérêt des collaborateurs qui ont besoin de se retrouver dans des entreprises éthiques. Et donc, au-delà de convictions personnelles, de toute façon, c'est nécessaire de porter ça. Et ça tombe bien, parce que Ocodir et la plupart des managers et un grand nombre de collaborateurs veulent développer ces pratiques. Donc, finalement, ça donne un sens. Et la communication qu'on fait, quand on fait une présentation sur l'impact, notamment du stockage des mails sur le numérique, quand on fait une presse, on en a fait une il y a une petite année. Il y a plein de personnes qui sont venues nous voir en disant « j'avais pas compris, je suis rentré chez moi, mais j'ai vidé ma boîte envoyée, j'ai envoyé ma boîte de messages supprimés, j'ai fait du ménage, j'ai supprimé tant de mails. » Donc on voit bien en plus qu'ils ont envie et que dès qu'on leur donne des astuces, des choses qu'ils peuvent faire même juste à leur niveau, ils le font. Donc non, c'est vraiment une démarche positive qui embarque, qui crée du sens. Et qui fait du sens dans la transformation qu'on fait. Et comme on a fait de ce ping un pilier stratégique du plan de transformation, un des 5 piliers, ça le met au cœur de l'approche. Hein. Et le plan strat, avec les leaders de ces programmes, donc sur ping, il y a une dizaine de leaders, on se réunit toutes les 2 semaines, tous les leaders de tous les programmes, parce que c'est un plan stratégique. C'est-à-dire que toutes les 2 semaines, on va parler de ping avec tous les membres du CODIR et les collaborateurs leaders. Donc on l'a vraiment mis au centre et ça porte, ça diffuse. Donc non, c'est vraiment clé. Et de toute façon, moi, c'est une conviction. Il n'est pas question de m'investir dans une entreprise qui n'a pas cette démarche-là en place.
Merci beaucoup. Je voulais juste faire un petit ajout, peut-être un peu valise, parce que je vais parler à la fois d'intelligence collective et d'éco-responsabilité des services web. Je suis Gilles Malpar, je suis président d'une petite entreprise qui s'appelle Mavana, mais j'ai le privilège de faire partie du Haut Comité pour un numérique éco-responsable, donc qui est une sorte d'initiative interministérielle où on a mis autour de la table de nombreuses entreprises, il me semble 80, pour travailler en intelligence collective sur comment on peut décarboner le secteur du numérique en France et les autres secteurs. Et dans les différentes actions et les recommandations au gouvernement, il y a quelque chose qui répond à votre appel, qui est inciter fortement les fabricants et les fournisseurs de services cloud à donner des informations de données environnementales entre guillemets, à la bonne granularité. Alors, c'est écrit comme ça dans la recommandation. Et la bonne granularité, plus spécifiquement, on parle de pouvoir donner la granularité de la baie dans un data center, voire, s'ils y arrivent, à le faire sur la granularité du service, c'est-à-dire qu'ils arrivent à nous facturer. Donc, ils doivent pouvoir, c'est qu'ils font des calculs. Donc, ils doivent pouvoir également donner des informations environnementales à ce niveau-là. C'était pour préciser ça. Et j'espère que ça va arriver bientôt d'un point de vue coercitif.
Et merci de relayer ce point-là. Et dans ce qu'on fait, je n'en ai pas parlé, mais tout appel d'offres aujourd'hui qui part, il y a dans les critères de choix importants la partie éco-socio-responsabilité. Hein, c'est là l'empreinte carbone de la fabrication, où il est fabriqué. Hein, est-ce que c'est fabriqué en Chine avec des enfants de 8 ans jusque dans quelle mesure il est réparable et dans quelle mesure on le recycle bien derrière. Donc ça, c'est vraiment des thématiques qu'on introduit, qui sont mises dans l'ensemble de nos appels d'offres.
Bonjour. Concernant les ateliers d'intelligence collective que vous avez faites, je suis intéressée de savoir combien vous en avez fait, combien il y avait de participants, sur combien de temps ça s'est... Enfin, est-ce que ça a été sur quelques semaines... Enfin, combien vous en avez fait sur combien de temps et sur quoi le type de livrable sur lequel vous avez atterri à chaque fois.
Alors, peut-être avant de vous laisser répondre, Yannick, de se rappeler qu'à chaque fois qu'on est sur ce type de processus, on est sur du marathon avec l'idée de tenir la distance. C'est-à-dire que le commanditaire, celui qui initie l'action... Vous parliez de ténacité, de courage, il va falloir tenir. Et ça peut durer effectivement des semaines ou des mois, mais il va falloir tenir. Il y a vraiment cette idée de tenir le cadre. Je vous laisse y répondre.
Alors, un, je ne les ai pas comptés. Il y a ceux qu'on a fait dans la démarche d'éco-socioconception. On a fait quelques-uns. L'ensemble des programmes ont fonctionné dans des démarches d'intelligence collective, en faisant brainstormer des collaborateurs. Donc du coup, cette démarche, elle a été au cœur de la façon de travailler. On en a fait, quand on a démarré sur l'éco-conception, un très important qui a réuni vraiment beaucoup de, je sais plus combien de personnes, qui a été, entre guillemets, une sorte de, qui a permis de lancer la démarche, parce qu'on a travaillé derrière ça, ce qu'on voulait faire, pourquoi on voulait le faire, ce qu'on en attendait. Donc il y a eu toute cette façon-là. Et après, quand on est parti, il y a eu d'autres ateliers où on a fait brainstormer, réfléchir des collaborateurs avec Isia. Et quand vous disiez comment on s'y est pris, en fait, on s'est appuyé largement sur les référentiels du marché. Et puis après, comme je disais, on a été par rapport à ce qu'on voulait en faire, on a été choisir les critères qui nous paraissaient, dans notre contexte, les plus importants. Donc là, on a retenu une grosse centaine, 120 et quelques critères, 122, quelque chose comme ça. Après, il ne faut pas être dogmatique. Hein. Si à un moment donné, dans un projet, on a un peu contraint, on ne peut pas tout faire. Si on en prend déjà 50%, on prendra 50% et ça sera déjà ça de prix. De toute façon, il faut considérer qu'on va être dans un cercle vertueux d'apprentissage, d'augmentation de maturité. Donc au fur et à mesure qu'on va progresser, on ira un peu plus loin. Donc là-dessus, moi aussi, hein, c'est un des points que je porte, de la souplesse, de l'adaptabilité en fonction de la maturité des personnes avec lesquelles on collabore.
Ouais, un mini témoignage. Je me décide parce qu'en fait, vous avez posé des questions précises et je me sens concerné. Il se trouve que je suis une entreprise qui fait de l'hébergement, justement, on est un hébergeur. Et je vais vous rejoindre sur plusieurs éléments. On ne peut pas tout mesurer, dont on est de taille intermédiaire, mais avec une longue histoire. Bon, on s'appelle Data Campus et on est implanté dans l'ouest de la France, sur la Technopole du Futuroscope. Mais on a fait des choix. Les choix de mesures qu'on fait, quand on aboutit à des mesures, elles sont valables. Et on a fait des choix en production sur l'immersion serveur, donc de supprimer la climatisation et d'immerger donc les serveurs dans des bains d'huile, donc de changer de milieu. Voilà. Je ne vais pas pouvoir être long ici, mais c'est intéressant. Ça s'explique même à des gens qui ne sont pas spécialistes. Et ça permet de faire des choix derrière. Et à propos de granularité, le travail qu'on mène actuellement dans la continuité de notre qualité d'entreprise à mission, donc on a mis en place l'immersion, c'est observable, voilà, ça s'explique. Mais ceci, c'est aussi de continuer sur l'IT et c'est de descendre sur l'applicatif à l'intérieur des VM elles-mêmes, d'être capable de dire si tout un chacun ici a deux sites web et un applicatif métier sur un même serveur qui est lui-même virtuel, être capable de dire ce site internet consomme tant d'énergie, tant d'électricité, avec sa transposition carbone, puisqu'on maîtrise derrière l'approvisionnement électrique, et l'histoire de cycle CPU, etc., qui vous parleront. Bon. La même chose pour l'applicatif qui est à côté, ou la même chose pour votre autre site internet. Ce qui vous permet à vous, en interne, si vous avez les compétences de développement, ou à l'agence que vous avez missionnée sur de l'éco-conception, d'avoir un retour sur la consommation électrique du code, et de la qualité du code qui a été fait. Et donc, on le met à disposition de nos clients. On ne mesure pas encore tout non plus. Par contre, on est le plus transparent possible et c'est certainement la différence avec des grands opérateurs, des grands hébergeurs. Mais ça empêche pas, ça nous empêche pas d'avoir plusieurs décennies d'expérience à l'échelle du groupe familial et sur le web depuis les années 90. Donc, il existe des hébergeurs de taille intermédiaire qui font des services de qualité. Ça existe et ça existe en France. Voilà.
Et c'est très bien. Et l'immersion dans les bains de ville, on le regarde de manière assez précise parce qu'on est convaincu qu'en termes d'économie d'énergie, c'est assez exceptionnel.
Eh bien, je vous remercie. Merci pour à la fois le partage d'expérience et les questions. Alors, le temps imparti est écoulé. Le temps est une valeur implacable. Pour ceux et celles qui souhaitent poursuivre la discussion et l'échange, on se tient bien sûr à disposition. On a un stand là en bas, Groupe Isia, allée 26, je crois, et on pourra poursuivre cette conversation. Merci, au revoir.